La période de Noël évoque pour chacun des images différentes. Période favorable aux élans du cœur, à l'envie d'espérer, à croire enfin à ce fabuleux événement que nous rapportent les évangiles, la venue du Créateur parmi nous. C'est fou quand on y pense. Noël, c'est souvent pour les adultes un retour à des souvenirs d'enfance, empreints de bonheur, des odeurs de sapin qui nous replongent des années en arrière dans l'attente anxieuse des cadeaux. Noël, c'est aussi la crèche installée quelques jours avant la date tant attendue et qui, aujourd'hui encore, nous interpelle. Quel que soit notre âge et l'intensité de notre foi, il y a toujours, toujours, autour de cette fête de Noël, une atmosphère de mystère et d'intimité qui touche les consciences et gagne chacun petit à petit. Chrétiens et non-chrétiens ne restent ni insensibles ni indifférents, les uns pour adorer en se rappelant la signification profonde de ce jour, les autres pour tenter de comprendre ou plus simplement encore pour aimer davantage ceux qui leur sont chers. C'est l'un des rares moments où les âmes acceptent de se taire pour un temps hélas trop court. C'est l'un des rares moments où l'on a envie de bien faire, de mieux faire. Et je suis sûr que c'est ce que vous ressentez ce soir. Finalement, si toute l'année on célébrait Noël, n'aurions-nous pas là la réponse à tous nos maux? La réponse à tant de questions restées en suspens? N'aurions-nous pas enfin le paradis sur notre bonne vieille terre? Mais qu'en est-il réellement de la vérité de Noël pour les hommes de notre génération? En fait, cela est sociologiquement constatable. Notre société vacille entre deux significations éloignées l'une de l'autre. Soit faire de Noël une jolie fable pour enfants ou pour cathos en rupture de bon sens, soit faire de Noël une fête commerciale, un jour férié de plus, et donc, quelque part, une célébration païenne. Ces extrêmes laissent alors peu de place à une réflexion spirituelle sur le sujet. Cependant, la question de savoir ce que Noël signifie exactement demeure importante, car les interrogations autour de la personne de Jésus sont nombreuses, et bien sûr, elles méritent un éclaircissement. Il n'est pas possible de continuer chaque année à faire la crèche, à faire le sapin, faire un bon repas de famille, faire des cadeaux, en ignorant tout du petit Jésus si discret au fond de sa crèche, qu'on en oublie d'ailleurs que c'est précisément lui que l'on fête. À vrai dire, les origines de Noël commencent bien avant la naissance historique de Jésus, qu'on appelle en grec le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui est oint. Car des siècles auparavant, Dieu avait déjà annoncé sa venue à travers différentes prophéties consignées dans l'Ancien Testament. Nous trouvons alors, à travers toutes ces prophéties antiques, un portrait de plus en plus élaboré de ce Messie qui devait venir pour être le sauveur de tous ceux qui se tourneraient vers lui. Parmi tous ces oracles, il y en a quelques-uns qui nous intéressent particulièrement car ils nous parlent justement de sa naissance. Il y a tout d'abord le prophète Isaïe, que nous venons d'entendre en première lecture et qui nous a accompagnés durant tout ce temps de l'Avent. Je vous rappelle ce qu'il nous disait. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Lorsque le prophète Isaïe annonce cette bonne nouvelle à ses contemporains, le pays d'Israël, comme le nôtre aujourd'hui, était profondément en crise. Le prophète avait donc beaucoup à dire au sujet de l'avenir de sa nation. Toutefois, le point central de sa prédication était l'annonce de la venue du Messie, dont les qualités et la vocation sont résumées dans ce texte que nous venons d'entendre. Alors, que nous révèle Isaïe dans cette prophétie extraordinaire? Tout d'abord, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. En effet, le Messie viendra parmi les siens, tout d'abord sous les traits vulnérables d'un nourrisson, Celui par qui l'univers a été créé ne viendra pas sur la terre dans l'éclat de sa majesté divine, mais comme un tout petit enfant, dans la fragilité de la condition humaine. Et puis il nous disait encore, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Ce petit être sera néanmoins le fils que Dieu nous donne. Un fils dont les noms, précisément, merveillé, conseiller, Dieu fort, etc., indiquent soit ses origines célestes, soit les œuvres divines et merveilleuses qu'il accomplira durant tout le cours de son existence terrestre. Et comme nous l'avons aussi entendu dans la lettre de saint Paul à Tite, ce fils nous a précisément été donné pour trois raisons. Trois raisons. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre dans la seconde lecture. Tout d'abord, il nous a été donné pour le rachat de nos fautes. Dieu seul, en effet, pouvait compenser la multitude des péchés des hommes par le don libre et volontaire de sa vie, à travers lequel le Christ exprime l'absoluité et la toute-puissance de sa miséricorde en notre faveur. C'est ainsi que la mangeoire dans laquelle il est déposé à sa naissance et les langes dans lesquelles il est emmailloté doivent être perçus aux yeux des bergers, à qui les anges révèlent cette bonne nouvelle, comme des signes de la messianité de l'enfant. Si les langes en effet prophétisent déjà le suaire de la passion et de la résurrection de Jésus, la mangeoire, quant à elle, annonce que toute la vie de cet enfant sera Eucharistie, à la louange de la gloire du Père céleste. Ainsi, saint Paul peut-il alors, dans un deuxième temps, exprimer la deuxième raison de la venue du Christ. Celle-ci s'inscrit dans un projet encore plus vaste que le simple pardon de nos fautes, car il s'agit effectivement de purifier nos pauvres consciences pour consacrer chacun de nous au sein d'une nouvelle humanité, appelé à devenir son peuple, le peuple de Dieu. Privilège jusque-là réservé aux seuls juifs par le droit de l'hérédité du sang, nous sommes dès lors, par la puissance de la grâce sanctifiante du Christ, incorporé au peuple élu. En vertu des grâces que nous offrent les sacrements de l'Église, et en particulier celle du baptême, nous devenons par conséquent héritiers des bénédictions faites jadis à Abraham, Isaac et Jacob. Notre terre promise sera désormais le ciel, et dans la convivialité de la Sainte Trinité et des saints, nous aurons part à la vie éternelle que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Enfin, troisième raison, nous dit saint Paul, notre consécration au sein du peuple de Dieu nous habilite tous, sans distinction de sexe ou de race, à nous mettre au service du Seigneur. Et c'est pour cette raison que saint Paul peut affirmer à Tite le troisième objectif de la naissance de Jésus. Je le cite, « Nous rendre ardents à faire le bien. » Nous rendre ardents à faire le bien. Combien faudrait-il, particulièrement à l'occasion de cette nuit très sainte, nous imprégner de cette parole de l'apôtre que nous accueillons dans la foi comme parole de Dieu. En effet, saint Paul nous enseigne que Dieu ne nous a pas seulement sauvés de quelque chose, comme le péché, mais qu'il nous a aussi et surtout sauvés en vue de quelque chose qui est en soi résolument positive, faire le bien. Oui, faire le bien. Telle est la vocation à laquelle Dieu nous appelle après nous avoir sauvés et sanctifiés. Le salut que la venue de Jésus nous offre ne comporte donc pas seulement une conséquence individuelle, mais aussi une dimension communautaire. Car s'il ne s'agissait que de faire le bien pour soi, c'est évident, saint Paul n'aurait pas jugé utile de l'enseigner à Tite, tant la chose est manifeste pour chacun, qu'il soit croyant ou pas, du reste. Non. Plus encore, notre consécration au service de Dieu nous presse à faire le bien à l'égard de notre prochain. Mais justement, quelle est ma véritable ardeur dans l'accomplissement de ce devoir ? Et puis, comment être ardent à faire le bien si mon cœur n'est pas lui-même embrasé d'amour pour le Seigneur? Et pour qu'il soit embrasé d'amour, eh bien, il faut nous enraciner dans le Christ. Aussi, la célébration de la nuit de Noël est-elle une occasion unique pour renouveler ma consécration et celle de mon foyer au service du Seigneur? Oui, renouveler la consécration de votre foyer au service du Seigneur. Ne rentrons pas chez nous tout à l'heure avec seulement le sentiment d'avoir accompli un devoir religieux en participant à cette messe de Noël. Mais profitons de la célébration de ce mystère pour nous projeter en esprit et en vérité par la vertu de la foi au sein même de la crèche de Bethléem. Frères et sœurs, que la joie de la Sainte Famille en cette nuit de Noël vous accompagne et illumine votre foyer. Et je vous souhaite donc à tous et à toutes un très bon, très saint et très joyeux Noël.